Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de reportage sur les ondes de Radio Fil de l'eau. Pour ce reportage du jour, c'est le troisième et dernier épisode de la conférence sur le harcèlement scolaire organisée le mercredi 13 mars dernier par la MFR de Cologne au sein de la grande salle de l'MJC La Maison de l'Île Jourdain. Les deux premiers épisodes sont déjà retrouvables en podcast sur le site de Radio Fil de l'eau dans l'onglet Croisière. C'est parti pour ce troisième et dernier épisode de cette conférence sur le harcèlement. Donc Frédéric Lacache, tu es gendarme. Voilà. Donc on va pas faire, comme on disait avant de commencer, le tour de la profession de gendarme, parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Voilà. Mais par contre, voilà, peut-être rapidement mais préciser sous quelle forme vous pouvez intervenir quand on parle de harcèlement scolaire, vous en tant que gendarme, voilà, comment vous gérez les choses, comment vous intervenez.
Donc nous, gendarmes, alors notre priorité, notre mission première, ça reste la protection des personnes. Donc je le dis assez souvent aux jeunes quand j'interviens dans les établissements scolaires, protéger quelqu'un, ça va passer par des fois une phase répressive. Alors c'est souvent celle-là qu'on montre en premier chez nous et qu'on fait paraître, hein, notamment par les médias. Donc c'est pas notre délire d'être violent ou d'interpeller des gens, mais pour protéger certains, des fois il faut passer par d'autres phases. Voilà, donc ça va être plus la protection des gens, voilà, pour résumer un peu un rôle du gendarme. Moi, j'avais souhaité faire un petit rappel sur la justice et les mineurs, rappeler aux gens, aux jeunes notamment, puisqu'on est sur le harcèlement en milieu scolaire, que la responsabilité pénale débarre à 13 ans. Donc à partir de 13 ans, on peut, au même titre qu'un adulte, pas avec les mêmes droits, hein, on va pas rentrer dans un, je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais au même titre qu'un adulte, on peut être arrêté, placé en garde à vue, présenté à un magistrat, un juge pour enfants, et avoir des condamnations qui peuvent être de la condamnation classique à une amende jusqu'à l'emprisonnement, avec une inscription quasi-judiciaire, même si on ne part pas en prison, ce qui est assez préjudiciable pour la suite de votre vie professionnelle notamment, puisque quand on a un casier, beaucoup de portes se ferment, notamment la fonction publique. Et des psychos aussi, je ne savais pas spécialement, mais voilà. Donc ça ferme encore plus de portes. Petit rappel aussi, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, mais la majorité numérique, je ne sais pas si ça vous parle, mais depuis l'année dernière, la majorité numérique est élevée, est mise en place à partir de 15 ans, ce qui veut dire que théoriquement, vous n'avez pas le droit d'être inscrit sur des réseaux sociaux avant vos 15 ans. Voilà. Donc après, je ne vais pas faire un sondage, hein, je n'ai pas de cas-out pour ça, mais je pense qu'on dépasse quand même. Voilà. Alors on va voir dans les comportements réprimés, parce qu'on a parlé beaucoup du harcèlement. Donc le harcèlement, c'est la répétition d'un fait dans la durée, mais quel fait en gros, quoi. Donc dans ces faits, nous allons voir des injures, les atteintes à la vie privée et les violences. Déjà, il faut savoir que le harcèlement en lui-même, le harcèlement en milieu scolaire, c'est une infraction qui est réprimée par la loi de 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement au maximum. Donc quand on parle de harcèlement scolaire classique, je dirais, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune circonstance aggravante là-dedans. On n'est pas blessé, enfin la victime n'est pas blessée ou du moins constatée en tant que telle. Et voilà, le plus bas niveau, c'est déjà ça, ce qui est déjà très élevé quand même. Donc l'injure. Elle est plus rapide pour faire des montages que pour passer la slide. Hein. Merci Aurélien. Donc l'injure, c'est une parole, un écrit, une expression quelconque de la pensée adressée à une personne dans l'intention de la blesser ou de l'offenser. Donc l'injure, vous connaissez tous, hein, je ne vais pas vous donner d'exemple, vous avez vu, j'en ai pas mis, je suis gentil. Par contre, l'injure, quand elle est prise comme ça, dans la rue, sans être dans un endroit protégé ou rien, c'est une contravention, c'est-à-dire que c'est une amende, au même titre que quand vous êtes sur la route et qu'un gendarme vous arrête et vous met une amende. Par contre, si elle est aggravée, donc les circonstances aggravantes que l'on voit sur la droite là, qui clignotent, tout ce qui est à caractère racial, sexiste, homophobe, handiphobe, on passe directement sur un délit. D'accord ? Donc un délit, vous voyez que l'injure délictuelle, c'est quand même une infraction qui est punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Donc on n'atteint pas encore le niveau du harcèlement. Là, l'injure prise à part comme ça peut être qualifiée, mais pour rentrer dans le harcèlement, il faut que l'injure soit répétée dans la continuité, et ainsi de suite. Je rappelle que c'est juste le type d'infraction qu'on peut retrouver dans le harcèlement. Après l'injure, on va voir tout ce qui est atteinte à la vie privée. J'essaie de le faire vite, hein, chef. Ça va ? Donc, les atteintes à la vie privée. Donc, la loi sanctionne le fait de capter, enregistrer ou transmettre sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Donc, en gros, vous n'avez pas le droit d'enregistrer à son insu une personne qui vous confie quelque chose, qui vous dit quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre son téléphone et l'enregistrer sans le lui dire et le diffuser par la suite. C'est pénalement interdit. D'accord ? C'est puni par la loi. De la même façon, c'est interdit de fixer, enregistrer, transmettre sans le consentement de la personne l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. C'est-à-dire que là, par exemple, si je prends le cas de la magnifique photo qu'on a vue juste avant, Alexandre, je ne peux rien lui reprocher puisque c'est moi qui lui ai donné la photo. Donc même s'il la diffuse et qu'il l'a fixée, voilà, il la diffuse, je lui ai donné mon consentement. C'est le mot très important là-dedans, c'est le consentement en fait. Hein. C'est moi, j'ai donné mon accord. Par contre, si l'un de vous s'amuse à prendre la photo et à la rediffuser, sachant que je ne lui ai pas donné mon consentement, lui, il peut encourir des sanctions pénales. Est-ce que vous avez saisi la subtilité ? Oui, ça va ? N'hésitez pas à me couper, poser des questions, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, le consentement, ouais, j'ai pas fini, merci. Je sais, je fais vite. Hein. Donc, toujours dans les atteintes à la vie privée, on a la captation, enregistrement ou transmission par un quelconque moyen de la localisation en temps réel. Donc ça, il y a beaucoup de parents qui aiment bien avoir ce petit truc de localisation sur leurs enfants. Je dirais que c'est un petit peu comme le contrôle parental, ça. C'est de la discussion à avoir. Hein. Après, imposer à ses enfants, c'est bien. Voilà, mais je pense que ça peut se négocier aussi. C'est important parce que vos gamins, déjà, ils vont pas forcément apprécier. Mais ça n'a pas forcément une grosse utilité et c'est répréhensible. Alors, pas pour les parents et les enfants, mais dans le cas du scolaire ou autre, si vous mettez sur un réseau, c'est lequel Snapchat, je crois, qui localise en temps réel sans problème. Voilà, si vous mettez la localisation à l'insu de votre camarade sans son consentement, il peut se retourner contre vous. Et j'ai fait le petit parallèle avec les parents, donc on va pas vous empêcher de le faire, mais c'est quand même quelque chose qui est pas forcément... C'est peut-être mieux d'en parler. Bon, là, c'est peut-être plus le côté psy qui peut le voir, mais... Family Link ?
Oui.
Ouais. Oui, alors après, le téléphone sera bien rentré à la maison, ça c'est sûr. Puisque de toute façon, c'est le téléphone, hein, c'est pas la personne en elle-même.
Oui, mais si le téléphone est rentré à la maison, l'enfant aussi.
Oui, bien sûr. Mais votre téléphone, il peut se balader aussi à un moment sans que ce soit votre enfant spécialement. Après, moi je sais que c'est souvent quand on en discute dans les échanges que j'ai avec les jeunes dans les collèges et lycées. C'est quelque chose qui revient, c'est une question qui revient hyper souvent en fait. Les gamins, ils sont absolument pas d'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui est vu aussi avec eux ?
Ah d'accord.
Je sais pas, hein, c'est peut-être dans la question, est-ce que c'est vu avec eux ? C'est pas une interdiction hein, pour le parent, hein, mm-hmm. Ce que je disais. Hein.
Alors moi, je suis contre hein, le contrôle parental et les traceurs parce que je tiens à la vie privée de mes enfants. Mais je pense que nous, parents, il faut qu'on réfléchisse aussi pourquoi est-ce qu'on met ces moyens-là sur les téléphones. Est-ce que c'est pas pour répondre à notre propre angoisse? Parce qu'à notre époque, on n'avait pas de portable. On rentrait, il y avait le téléphone fixe. On pouvait passer un coup de fil aux parents qui étaient encore au travail. Mais en fait, eux, ça les... Enfin, je rejoins ce que dit M. Lacage. Vous savez pas ce qui va se passer entre la sortie et le retour. Donc voilà, moi ça me questionne en fait sur l'intérêt que les parents trouvent à utiliser ces moyens-là.
Ouais.
Non, je voulais juste...
Ça dépend de l'âge auquel vous autorisez votre enfant à avoir un portable. Oui, mais ça pose toujours la question de qui c'est que ça met en sécurité.
Et ça rejoint notre question centrale du climat familial, de la communication au sein de la famille, de la confiance accordée, parce que je pense que c'est ce qui se joue hein, quand on parlait de limites ou d'interdits, c'est cette négociation-là en fait qui se joue. Et bon, mais c'est notre job, quoi. Oui.
Est-ce qu'un enfant en primaire est tenu d'avoir un téléphone portable ? Je connaissais pas le système, mais une montre connectée, moi j'en ai une. Si j'ai pas le téléphone qui va avec, ça fonctionne pas.
Alors,
d'accord.
Juste, on a
je maîtrise pas. Voilà, c'était. Alors, on n'est pas sur le volet répressif hein, avec les parents. Hein, c'était lancer une histoire. Sachez quand même que moi, pour intervenir régulièrement dans les établissements scolaires auprès de jeunes, c'est la première des choses qu'ils me demandent à chaque fois que j'aborde ce thème-là. Hein. C'est pourquoi mes parents ils me fliquent, pourquoi je suis ci, pourquoi je suis ça. Donc moi, très clairement, je leur dis que ça n'est pas une obligation. C'est beaucoup de discussions à avoir avec eux. Il y a peut-être d'autres solutions, il y a peut-être, voilà, on peut parler du téléphone, on peut envoyer un SMS parce que je suis bien arrivé, on peut... Si c'est uniquement pour savoir si l'enfant est rentré, le SMS peut fonctionner. Voilà, vous êtes sûr que c'est votre enfant aussi qui vous enverra, puisque au même titre que le téléphone suit l'enfant, ça n'empêche pas. Après, est-ce que c'est pas pour tout le reste qu'on veut que l'enfant soit géolocalisé ? Voilà, c'est peut-être une question à se poser, mais c'est un débat qui...
Après, ben nous, on voit le côté, du coup, ado. Le problème, c'est que ça a un côté très pervers, en fait. C'est-à-dire que le parent, au début, ça commence comme ça. De toute façon, le téléphone de base, ça commence comme ça. J'achète le téléphone à mon enfant parce que ça me rassure qu'il m'appelle, etc. Donc, ça, c'est le départ. Le problème, c'est qu'en tant que parent, est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi où on va se dire « Là, on est en train de se disputer en ce moment. Il me dit qu'il est chez sa copine. Est-ce qu'il est vraiment chez sa copine ?» Et en fait, on est vraiment dans un cercle vicieux où on va en permanence aller chercher un petit peu de vérifier. Alors que oui, l'adolescence, de fait, il va transgresser, il va nous mentir, il va aller à l'encontre de... évidemment. Donc c'est très pervers. Et puis, j'allais dire, au-delà de ça, c'est un peu renvoyer aussi à l'enfant qu'il est en potentiel danger en permanence. Je suis tracée en permanence, ça veut dire qu'à tout moment, quand je rentre de l'école, il peut m'arriver quelque chose. Et ça, ça le met, en fait, ça fait l'effet inverse, ça le met plus en insécurité. Même si le parent est rassuré, ben, lui, ça fait l'effet inverse et c'est un peu dommage, c'est pas le but.
Et j'ai mon cas à partager là sur, sur ce qui s'est passé en Espagne et notamment dans la région de la Catalogne. Alors ça rejoint à la fois le cyberharcèlement et finalement l'implication des parents. Là-bas, il y avait pour tradition d'offrir un téléphone portable pour l'entrée, comme chez nous au collège, quoi, vers les 11 ans. Pour dire, bon, mais voilà, tu es grand, mon enfant, on t'offre un téléphone, tu es connecté. Et en fait, ils se sont rendus compte, là, en 3, 4, 5 ans, des dérives de l'usage du multimédia. Et donc, ils ont décidé de, ben, en fait, par le biais d'associations, enfin, de parents, de se mobiliser en disant, bon, mais il va falloir qu'on arrête cette tradition-là, que finalement, on s'est imposé, et on va différer l'âge. C'est-à-dire que ça sera plus 11 ans, ça sera 15, 16 ans. Parce que ben on s'aperçoit qu'à 15-16 ans, ben ils sont plus mieux armés entre guillemets, et puis voilà, ils font mieux, ils se sont construits. Enfin voilà, tout ce qui en découle. Je ne sais pas si je suis exhaustive parce que je commence à.
Et juste pour revenir à une dernière chose dessus, nous très souvent on est appelé, alors on intervient souvent pour des fugues de mineurs. Et la plupart du temps, le mineur, il a fugué parce que le parent qui est très inquiet et qui veut savoir où est son enfant, lui a confisqué son portable. Donc forcément, quand il a fugué sans son portable, pour nous, pour le retrouver, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, si vous voulez, à un moment, il y a une forme d'incohérence dans tout ce système. Voilà. C'était juste pour l'anecdote aussi, mais il faut le savoir que quand on confisque le portable, soyez vigilants sur l'enfant derrière, parce que si la bonne idée lui prend de fuguer... C'est une blague, une bonne idée, c'est une très mauvaise idée de fuguer. Mais déjà, ça me fait ressortir la nuit en plus. Donc, mais voilà, c'est une très mauvaise idée. Mais si vous n'avez pas le téléphone portable, en plus, je ne peux pas vous retrouver. Donc, c'est compliqué. Voilà. Les violences. Donc, pour tout ce qui était les atteintes à la vie privée, c'est aussi puni 45 000 euros, un an maximum. Et là, on va voir que les violences, on passe à un cap au-dessus. On passe à un cap au-dessus, donc les violences, c'est tout acte volontaire provoquant chez celui qui en est la victime un trouble physique ou moral comportant des conséquences dommageables pour sa personne. Bon, une violence, c'est un coup. Un coup, peu importe la force avec laquelle vous le mettez, après c'est un médecin légiste qui va qualifier si la violence est grave ou pas en fonction des séquelles que vous avez. Donc, dans les circonstances aggravantes de la violence, on a également tout ce qui est à caractère racial, homophobe, sexiste, handiphobe. Mais il y a aussi ce qui a trait à la personne, à la qualité de la personne ou du lieu. En milieu scolaire, vous êtes, vous devriez, enfin, je vous l'apprends peut-être, mais vos professeurs, enseignants et personnes qui travaillent dans l'établissement sont ce qu'on appelle des personnes protégées. C'est des professions protégées, d'accord ? Donc, si un coup est parti sur un professeur, c'est une circonstance aggravante. Donc, l'infraction sera plus lourdement sanctionnée. Il en va de même si une personne frappe un mineur et si les faits se passent dans un établissement scolaire. Voilà, il y a beaucoup de faits qui sont minimes, entre guillemets, pas gravissimes. Une gifle, par exemple, alors, je ne dis pas que c'est bien non plus, mais ce n'est pas un fait de violence grave, une gifle. Si c'est dans la rue, c'est une contravention. Si c'est au collège, au lycée, c'est un délit. Donc là, on passe sur la catégorie au-dessus, garde à vue, ainsi de suite. Donc les violences en milieu scolaire, c'est puni au même titre que le harcèlement. S'il n'y a pas plus d'aggravation que le fait d'être en milieu scolaire, c'est 45 000 euros, 3 ans d'emprisonnement. Donc le combo gagnant de toutes ces infractions qu'on vient de voir, c'est le happy slapping. Donc en fait, ça, le happy slapping, c'est le fait de, voilà, de voir un fait, de filmer un fait violent, agressif verbalement, avec un groupe de jeunes. Généralement, c'est un groupe, c'est jamais une personne isolée. Et après, de le diffuser sur les réseaux. Donc là, c'est vraiment la combinaison de tous les faits qu'on a vus précédemment. C'est souvent le dernier fait d'un harcèlement, d'un fait de harcèlement. Le harcèlement, vous allez l'avoir tout au long de l'année, des faits qu'on qualifiait tout à l'heure, je ne reprendrai pas votre mot, mais minime, non pas minime, non je ne sais plus le terme, non, quand ils sont, enfin bon, des petits faits, de la micro-violence, merci, des petits faits toute l'année répétés, donc qui caractérisent un harcèlement et qui peuvent se terminer par un fait beaucoup plus grave qui va être l'élément déclencheur de notre saisine à nous, c'est-à-dire qu'on va venir voir le gendarme parce qu'il y a eu ce fait grave in fine, qui fait qu'on va rappeler tout ce qu'il y a eu avant et qu'on rentrera dans une infraction de harcèlement. Et le happy slapping peut être un de ces faits graves qui déclenche tout cela. À savoir que le happy slapping, on n'est pas épargné. Il y en a déjà eu à l'île Jourdain. J'espère qu'il n'y en aura pas encore. Mais bon, je ne peux pas garantir l'avenir. Mais c'est des faits qui arrivent partout, en fait. Hein. Ce n'est pas spécialement dans les gros quartiers toulousains ou dans les grandes villes. Ça peut arriver partout. Qui avait une question ? Oui ?
Les gens qui sont sur les infos, qui filment les gens qui cassent et tout ça, et comment on dit ? Les agressions avec les civils, tout ça, est-ce que c'est puni aussi par la loi ?
Alors, on a le droit de filmer des violences à partir du moment où c'est pour apporter un témoignage à la justice. Ah, okay. C'est-à-dire que si tu filmes, toi, le fait de violence qui se produit et que tu vas voir les gendarmes et que tu dis « Moi, j'ai filmé la scène, voilà ce qui s'est passé, j'ai pas pu intervenir parce que y a tout un groupe et on vous demande pas de vous mettre en danger, hein, personne. » Signaler un fait, c'est déjà aider. Si c'est pour aider à pouvoir appréhender les auteurs par la suite, évidemment, on te dira jamais rien. Oui, là, t'es protégé dans ce cadre-là. Maintenant, si c'est moi qui dois venir te chercher 3 jours après parce que j'ai appris que tu avais filmé et que tu dis « Ah, mais je comptais venir vous le dire », ça ne marchera pas. Oui. Voilà, d'accord ? Oui. Le cyberharcèlement. Donc le cyberharcèlement, pour rebondir un peu sur ce que tout le monde a dit avant, hein, puisque c'est un peu ce qui se produit le plus. Donc bon, la diffusion massive instantanée de messages, ça peut être les messages, mais ça peut être tout simplement des likes avec un pouce vers le bas suite à quelque chose. Vous diffusez une photo de vous et tout le monde met un pouce qui va. Alors, je sais pas si ça existe sur tous, je crois que ça existe sur Facebook, mais pas sur tous. C'est fini. Bon, je suis pas à jour, moi je suis sur Facebook aussi, hein, mais voilà. Si vous manifestez même des petits termes, pas forcément des gros trucs, mais que vous êtes un grand nombre à le faire, à un moment ou un autre, on rentrera quand même dans le cyberharcèlement. La particularité du cyberharcèlement, C'est que, ben en fait, avant, ça a toujours existé le harcèlement, hein, c'est pas nouveau. Mais avant, voilà, ça existait à l'école, et on rentrait à la maison, on était tranquille à la maison, quoi. C'était un peu le refuge. Maintenant, le cyberharcèlement fait que même à la maison, ben, y a plus de refuge du tout. Donc ça, c'est quelque chose de compliqué pour celui qui le vit. C'est peut-être, je sais pas si vous voulez réagir là-dessus, mesdames les psychologues.
Bah, oui, l'intérêt de rester attentif, mais de tendre vers une relation rapprochée et d'intervenir, quoi. Mais bon, je ne vais pas aller plus vite.
Ok. Que faire ? Alors, la très très grande majorité des cas de harcèlement scolaire se règle à l'école. Parce que les équipes encadrantes, après on peut toujours débattre, hein, tout le monde a toujours un exemple à dire, moi ça s'est pas passé comme ça, comme avec les gendarmes, ça se passe pas forcément tout le temps bien, mais il y a toujours un exemple. Mais dans la grande majorité des cas, et on parlera que de la généralité, les profs, les équipes encadrantes sont des gens formés pour arriver à gérer ces situations, et ils gèrent énormément de situations. Nous, pour vous dire, on a très très peu de faits de harcèlement qui arrivent jusqu'à la gendarmerie, quoi. Alors, ça paraît peut-être bizarre, mais nous, on va avoir, comme je vous disais, le fait de violence aggravée, qui sera un petit peu la finalité de ce harcèlement. Mais comme on n'a pas eu connaissance du harcèlement avant, ben, on intervient parce qu'on est appelé par le chef d'établissement parce qu'il y a eu un gros fait de violence. Donc on va gérer le gros fait de violence, qui souvent, comme il est un peu plus gros et qu'il est en milieu scolaire, que c'est aggravé, que toutes les circonstances aggravantes qui vont, est plus lourdement sanctionné que le harcèlement. Donc la justice va retenir le fait le plus grave, le plus lourdement sanctionné. C'est pas forcément le plus grave, parce que des fois ils préféraient juste prendre un coup et pas avoir vécu une situation de harcèlement. Mais voilà, donc c'est peut-être pour ça que nous on ressort pas autant de faits de harcèlement que ça dans nos unités. Très 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 certainement par contre parce que c'est géré dans les établissements scolaires et très bien géré. Moi je le dis, je ne crains pas de le dire, je trouve que les établissements scolaires, et c'est pas parce qu'on est là aujourd'hui autour d'un établissement scolaire, c'est super bien géré. Voilà. Si vous voulez savoir à peu près la démarche très rapidement, c'est une plainte pour un dépôt de plainte. C'est une plainte, on se présente à l'unité, on dépose plainte avec les parents, puisque on parle d'un mineur, donc c'est les parents qui confirment la plainte. On envoie la personne chez le médecin légiste pour pouvoir quantifier la gravité de ce que ça lui a créé, en fait. Voilà. Ça va être la blessure, on va dire, qui va être donnée par le médecin légiste, qui peut être juste du retentissement psychologique. C'est pas forcément que des coups, hein. Le harcèlement, on l'a vu, très souvent c'est plus du harcèlement moral qui ressort que du harcèlement physique. Donc là c'est le médecin légiste qui va quantifier ce retentissement et qui va pouvoir permettre de qualifier l'infraction et d'aller par la suite de l'avant jusqu'à l'interpellation du ou des auteurs, puisque comme on l'a vu au départ, c'est souvent plusieurs personnes. Voilà. Chacun a des rôles différents, a des degrés différents, mais plusieurs personnes. Voilà, j'ai essayé de faire court.
Merci. Merci beaucoup, Frédéric Lacage. On en est donc maintenant à la moitié. Non, c'est pas vrai. On arrive à la dernière ligne droite de cette conférence. Donc, j'avais annoncé plusieurs fois. On est bien évidemment en retard. On va vous proposer de regarder un autre film qui a été tourné, donc, qui a été construit, en tout cas celui-ci, avec la MFR de Cologne. Ce film s'appelle La lettre à Élise. Je vous laisse regarder ça.
Au moment où je te raconte cette histoire, ben, t'es juste à côté de moi. Oui, à côté. Parce que je suis assise dans cette salle. Je sais pas si mon histoire va t'intéresser et t'en feras ce que tu voudras. Moi, c'est Élise. Je suis née dans le nord de la France. C'est là qu'une cigogne m'a déposée dans un joli petit village. Non, je déconne, c'est pas une histoire à dormir debout. J'ai 8 ans et mes premières années d'existence, je n'ai que de bons souvenirs. Une enfance heureuse, des parents aimants, des amis très proches, très soudés. Ma vie est douce et les eaux sur lesquelles je vogue sont calmes. Je vis dans un petit village paumé, mais j'adore la campagne. Mon père bosse dans le jardinage. et ma mère est femme de ménage, mais elle doit se rapprocher de son nouveau job. Je déménage donc à une vingtaine de kilomètres du bled où j'habitais. L'inconnu, c'est vraiment flippant, surtout quand t'as 8 ans. Mais c'est pas grave, étant de nature optimiste, je me suis dit « trop cool, des nouveaux copains avec qui jouer !» Puis, la maîtresse a eu la lumineuse idée, juste avant les vacances, d'organiser une demi-journée d'intégration. Mais attention, il faut que ce soit progressif. Intégration, mon premier jour est, comment dire, très particulier. Quelle drôle d'idée d'être timide au moment où toutes les filles de l'école se ruent sur toi et te posent 10 000 questions. T'es qui? D'où tu viens? T'aimes quoi? Ils font quoi tes parents? T'as quel âge? T'es né quand? Pourquoi t'as les dents comme ça? Et t'as des animaux chez toi? Et moi, là, ben, je panique et je fuis. Et eux, ils le prennent super mal. Ils me voient comme la fille qui se croit au-dessus de tout le monde. Alors que je suis juste qu'une grosse pédocharde qui vient de la campagne et qui joue avec des insectes. À partir de ce moment-là, je me réinvente. Mon monde est incroyable. Un monde fait de pet shops et d'autres animaux trop mignons et bienveillants. Comme ça, j'évite de penser aux sables qui m'ont balancé dans les cheveux ou aux CE1 qui ont pissé sur mon goûter avant qu'un CM2 tente de me faire bouffer de l'herbe. Quand tu dois éviter les cailloux, qu'on te balance à la gueule et les insultes, ça devient carrément un terrain de guerre, cette école. Hé, hey, la contaminée! T'approche pas, je veux pas être contaminée! Bah! Lui, c'est Aaron, mon crush si tu préfères. C'est la seule personne qui a le courage de me défendre en public en me faisant un câlin pour montrer aux autres que j'étais pas contaminée. Mais naïvement, je suis tombée amoureuse. Ma bulle de protection que je m'étais créée face au manga me permettra de tenir jusqu'au collège. À l'époque, j'ai pas la conscience que je me fais harceler. Je sais même pas ce que c'est, le harcèlement. La maîtresse, elle, ne voit rien. Et mes parents, je leur dis pas. Je m'évade dans mes jeux, et je tente de suivre les cours. À la récréation, je me cache, ou j'essaie à tout prix de jouer avec Aaron. Mais un jour, il me demande de lâcher. « Dégage, Alice, tu nous fais chier !» C'est pas grave, j'ai l'habitude. C'est pas grave, au collège, ça ira mieux. Et effectivement, ma sixième se passe merveilleusement bien. Je trouve les gens un peu immatures, mais c'est pas grave, tant qu'on me fait pas de mal. Je sais m'entourer des bonnes personnes, notamment de Marine, qui est mon point repère, comme un phare dans la nuit. Le bon attire le bon, et Marine nous rejoint pour former un trio inséparable. Ensemble, on est bien. Ensemble, on est forte. Plus besoin de cette bulle de solitude. Mais Marine a des difficultés et ses parents décident de la mettre dans une école où ils seront en mesure de l'accompagner ou un truc du genre. Bref, tout ça, ça m'affecte beaucoup et notre trio magique s'est transformé en duo. C'est alors qu'arrive Orlan, le genre de personne sans empathie qui se sert des autres pour obtenir ce qu'elle veut. Et là, ce qu'elle veut, c'est m'éloigner de Marie. Moi, je comprends pas cette attitude. Je fais même tout pour l'intégrer avec nous. Mais elle, elle s'en fout. Elle veut juste me nuire. Elle me vole de l'argent, mes lunettes, 3 cahiers de dessin et mon amie, Marie. Elle balance des rumeurs sur moi en disant que je suis qu'une grosse cassos qui mito à tout le monde, que j'étais une sataniste et que je coursais les garçons pour avoir l'attention. J'ai 12 ans, et en 4 mois, elle a détruit ma vie. Alors j'essaie de trouver un exutoire. Un endroit où je puisse de nouveau exister parce que j'imagine qu'on veut pas de moi dans la vie réelle. Tu te rappelles quand j'étais à l'école primaire que je me mettais dans ma bulle? Ben là, cette bulle, ce fut le monde merveilleux des réseaux sociaux. Snap, Insta, oh trop bien le petit chat, trop swag, le nouveau sweet! Bon, j'ai fait aussi des rencontres super sympas, dont Martin et Damien. Tous les deux, je les idolâtre. Ils en ont plus que moi. Et pour moi, ce sont de bons exemples à suivre, pour ne pas sombrer. Ils me font marrer et avec eux, je reprends la confiance. Trop la confiance. N'écoutant que mon courage, je décide de me déclarer ma flamme à Aaron. Tu te rappelles de mon crush en école primaire? J'y ai mis tout mon cœur dans cette lettre. J'y ai mis... surtout qui avait mon compte Insta et Snap, mon numéro de téléphone, ma chaîne YouTube, pour qu'ils puissent voir à quel point j'avais de super goût. Un râteau, ça suffisait pas, et ce qui devait arriver arriva. Et en prime, il a rien de mieux à faire que de filer mon numéro tel à un de ses potes, et lui aussi l'a filé à ses potes, et ainsi de suite. Et en une journée, 500 textos. Hey, c'est toi, Élise. Putain, la loose. Hey, mais c'est pas toi, la grosse cassos. T'as cru que tu pouvais être en couple avec ta sale gueule? Va crever, salope. Sac poubelle. Fais-toi écraser sous un train. Trop la honte, genre. Et puis, pour terminer, la réponse d'Aaron sur ma chaîne YouTube écrite en caractère 72. Non ! Orlan m'enfonce encore une fois, mais là, c'est la fois de trop. Notamment, de toute façon, tu peux crever, personne ne sera triste. Tes parents, ils pleureront même pas à ton enterrement, t'es inutile. Marie me défend pas, de toute façon, j'attends plus rien d'elle, ni des autres d'ailleurs. Ma vie ne vaut rien. Heureusement, c'est la fin de l'année scolaire et ça tombe plutôt bien. Alors je me tourne vers mes amis virtuels, Damien et Martin. Mais un soir, tout bascule. Nous discutons paisiblement quand Damien me confie qu'il n'en peut plus. Il est harcelé lui aussi et il veut en finir. Rapidement, je reçois des images. Mais je te les montrerai pas. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y avait des boîtes de médicaments vides qu'il avait avalées, suivies de lames de cutter pleines de sang. Je panique. Je le supplie de pas se faire du mal. Mais je vois ses bras mutilés, hachés, sa peau rouge vif et le sang qui coulait à flot. Il l'a fait. Il m'a fait ses adieux. J'appelle Martin, qui est le voisin de Damien. 20 terribles longues minutes de silence et d'angoisse. Damien a quitté ce monde injuste et sans pitié. Et moi, j'ai pas su l'aider. Martin quitte les réseaux sociaux et je perds tout. Je n'ai plus aucune nouvelle. L'un comme l'autre m'ont abandonné. C'est l'enfer. Je perds goût à la vie. J'ai pas réussi à le sauver. Ma vie se transforme en un amas quotidien de choses futiles. La violence continue, les jours se suivent et ne laissent aucun répit. Chez moi, je vis enfermée, meurtrie par ces souvenirs glaçants. Pourtant, je souris. C'est la seule arme qui me reste. Sourire forcé pour continuer d'exister, mais les émotions se sont effacées. C'est la dépression. Je suis vide. Je ne pleure pas à la mort de mes grands-parents. Pourtant, je les aimais tant. Mes notes s'effondrent, mes profs m'enfoncent. Personne ne me comprend. Ma dépression fonctionne comme des vagues, avec des accalmies et des tempêtes. Les plaisanteries sur ma taille me blessent au plus profond et je complexe énormément. Mais j'ai gardé espoir. Finalement, j'ai trouvé des amis qui ont valu le coup d'être encore là aujourd'hui. Et sans le savoir, cette bande de copains m'ont sauvé.
C'était la lettre à Élise. Et ce soir, on a une situation un petit peu particulière parce que, au moment de la réalisation et de la préparation de cette vidéo, cette jeune fille qui se fait appeler Élise dans la vidéo souhaitait rester anonyme et ne voulait pas dévoiler son identité. Ce soir, elle franchit le cap. S'il vous plaît, messieurs, dames, je vous demande d'accueillir Rachel.
Bonjour à tous. Merci.
Donc rapidement, Rachel, donc déjà bravo pour pareil pour ce saut dans le vide et la réalisation, en tout cas la voix dans cette vidéo là.
C'était la mienne.
Oui, c'est ça. Question rapidement pour pas qu'on reste trop longtemps, mais qu'est-ce qui t'a fait franchir le cap entre le moment où là justement de la réalisation de cette vidéo où tu disais que tu voulais rester anonyme et que ça ne sache pas et que ce soir tu te montres là devant nous tous à visage découvert en public, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a fait ce déclic là?
Eh bien, j'ai un peu grandi et je me suis rendu compte que déjà pour commencer, je n'étais pas la seule à vivre ce genre de situation. Peut-être pas aussi condensé, certes, mais je ne suis pas la seule et je souhaitais en parler pour sensibiliser un maximum de personnes. Vous aussi, vous pouvez vous en sortir. Regardez, je suis sur un public devant 120 personnes. Si c'est pas beau, ça.
Merci beaucoup. Ouais, sacré courage, en tout cas, de ta part, Rachel. On va continuer, on va terminer, donc on va passer, du coup, après ce lettre, ben voilà, justement, on parle des conséquences qu'il peut y avoir, les conséquences, qu'elles soient physiques ou psychiques, juste le temps qu'Aurélien prépare, retourne sur la préparation. Donc, les conséquences physiques et psychiques pour les victimes de harcèlement. Ben, je vais me tourner vers vous, Leïla Bourrel, oui. Donc on le rappelle, psychologue libérale. Voilà, bah avec ce qu'on a là, est-ce que tout y est? Est-ce qu'il y en a qui peut-être ressortent plus que d'autres? Qu'est-ce qu'on peut tirer un petit peu de ce qu'on trouve là sur l'écran?
Oui, troubles anxio-dépressifs, comportements suicidaires et violents, oui, des gestes, ce qu'on appelle aussi auto-agressifs, quoi, c'est-à-dire que l'adolescent va se retourner la violence sur son propre corps. Bon, on va pas rentrer dans tous ces détails-là. Je pense qu'en plus, c'est chargé. Là, je sens quand même une atmosphère assez lourde. Donc, on va peut-être pas insister sur tous ces effets que vous connaissez, à moins que vous ayez des questions et auquel cas, on est là pour y répondre. Enfin, moi, je veux bien y répondre. Ou après, justement, peut-être prendre un temps aussi, peut-être pour parler. Voilà. Donc, les conséquences physiques et psychiques, elles sont là. Hein. Donc, je vais les lire. Dépression, fatigue, perte de l'appétit. On va remarquer, voilà, un changement dans les habitudes. Alors, ça peut être, perte de poids impressionnante ou pas. Enfin, voilà. Au niveau scolaire, absentéisme, décrochage, c'est-à-dire que... Puis les résultats, quoi. C'est un bon élève qui devient, du jour au lendemain, qui décroche. Hein. Bon, on peut se questionner. Ben, perte de l'estime de soi, ça paraît aussi très logique en soi. Et alors, phobie sociale, bon, c'est plus un processus plus long. Je le mets entre parenthèses là. Et troubles anxio-dépressifs, on l'a dit aussi. Donc voilà, on peut passer puisqu'on n'a plus trop de temps. Enfin, à moins qu'il y ait des questions où j'y répondrai peut-être. Enfin, moi, je resterai un petit peu.
C'est vrai qu'il y a, il y a un point qu'on a moins abordé parce qu'évidemment on parle forcément beaucoup des victimes oui. De harcèlement. Justement, on parle plus rarement justement du harceleur. Oui. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conséquence également du côté du harceleur?
Ça, Élodie l'avait évoqué aussi en préambule, c'est-à-dire qu'on a remarqué qu'il manquait d'empathie. Et que ils sont dans cette recherche permanente de cadre finalement, donc dans un rapport à la violence, une répétition, parce que ce cadre, il a pas, enfin ce cadre, ce que j'appelle cadre dans notre sens à nous, mais cette proposition de d'environnement familial et de contenance n'a pas été transmise, acquise, voilà. Donc c'est un constat. Après, à travailler, nous, ça nous demandera du temps et de l'énergie, mais après, ce sera notre boulot à nous. Voilà. Donc, je passe à moyen terme. Évidemment, il est marginalisé parce que on sait que c'est, entre guillemets, lui qui fait. Donc, il est mis de côté. Enfin, voilà, tout ce qui est préjugés, stéréotypes, ça fonctionne bien. Oui, on constate qu'il a un échec scolaire. En général, il y a une question de jalousie. Hein. Pourquoi moi, je ne réussis pas? Lui, il est bon. Enfin, bon, bref. On l'a déjà un peu vu. Et donc, à long terme, délinquance, troubles sociaux, dépression, oui. C'est même à court terme. Hein. On peut dire qu'il est en dépression. Hein. Enfin, on n'a pas besoin du long terme. Attitude violente, c'est quoi?
Pour les témoins,
voilà. Donc, dans la triangulation, les témoins, ils peuvent aussi finalement se dire, tiens, je peux reproduire. Donc, sombrer dans ces attitudes violentes ou pas. Partager un sentiment d'insécurité, oui, parce que il y a ce climat là qui est propice à ces actions là, donc ils se sentent pas en sécurité dans ces environnements là. Alors la note positive et optimiste, et j'aime bien aussi finir là-dessus, c'est qu'ils peuvent changer de rôle, changer de position, et en effet ne plus être témoin, c'est-à-dire prendre part, c'est-à-dire alerter, c'est-à-dire témoigner, c'est-à-dire agir, faire quelque chose, ne pas rester seulement là, sans rien faire. On a tous une capacité à, d'où que l'on vienne et qui que l'on soit et où que l'on aille. J'ai envie de finir sur ces notes. Je vais rester là-dessus d'ailleurs, je crois.
Très bien, merci beaucoup, Leïla.
Voilà.
En plus, vous me faites du coup une transition parfaite parce qu'on passe à un point sur comment agir quand on est justement dans la position d'un jeune scolarisé, comment on peut agir. Il y a plusieurs choses, on peut forcément en tant que victime se confier, se protéger, signaler l'abus, en parler forcément, et donc téléphoner, et comme disait Frédéric tout à l'heure, donc en cas de dernier recours souvent, mais porter plainte, même si comme tu disais tout à l'heure, on arrive rarement jusque là. Et du côté des témoins, forcément le soutien, c'est important, surtout quand on est ado, c'est vrai que l'amitié et les amis, c'est très très important souvent. Ne pas rire de ce qui se passe, je m'attarde pas forcément plus, mais c'est d'une simplicité entre guillemets ça peut paraître simple, mais ne pas rire de ce qui se passe. En parler également, il y a le côté victime et le côté témoin, on peut en parler également, et au minimum forcément ne pas participer à ce qui se passe, et le dernier, le 10, est d'essayer de convaincre, que ce soit la personne d'en parler, le harceleur d'arrêter, essayer d'intervenir dans la mesure du possible, même si on comprend que la position n'est pas toujours facile et peut par moments aussi être délicate, bien évidemment. Donc la prévention dans le milieu scolaire également, ça peut passer par quoi? Ça peut passer par créer un climat de confiance. Là, je m'adresse forcément plus aux proches ou aux formateurs. Là, quand on parle de MFR, aux formateurs, aux enseignants, essayer de créer un climat de confiance. Ça peut permettre justement de libérer la parole à certains moments. La communication saine et non violente, la communication déjà de manière générale, mais si en plus on arrive à essayer de faire en sorte à ce qu'elle soit saine et non violente, ça permettra également de libérer la parole, que ce soit des victimes, des témoins et peut-être même aussi des harceleurs. Ça permet également quand on parle et quand on arrive à communiquer, à restaurer l'estime de soi, ce qui fait qu'on acceptera aussi peut-être beaucoup moins le harcèlement et qu'on en parlera aussi peut-être plus facilement, et par ça ça peut passer également par des valeurs telles le respect de soi, le respect de l'autre, le respect de chacun. La solidarité, ça on en parlait également, surtout en période d'adolescence, je le répète, mais c'est vrai qu'à ces moments-là, souvent l'amitié, le proche, le cercle, la cohésion sociale est assez importante et il peut s'en dégager une solidarité également. La tolérance, évidemment, ce sont des valeurs. C'est des valeurs qui ont l'impression de pouvoir tous porter ces valeurs-là en nous, mais essayer de les développer au maximum permet aussi de faire avancer les choses. Donc forcément, la tolérance en fait partie. Et du coup, on arrive à la fin des valeurs, pardon, je ne me rappelais plus. Et je vais inviter Mylène Lopez sur scène avec moi, qui est donc chargée de projet et de communication au sein de la MJC, ou de communication et de projet. Vous le mettez dans le sens que vous voulez, si vous arrivez à garder le bon sens. Parce que ça peut aussi passer justement par du théâtre forum que va proposer la MJC. Je t'en prie, Mylène.
Voilà, dans un mois, jour pour jour, donc samedi 13 avril, la MJC propose ici gratuitement une journée entière, donc pour les jeunes, pour les familles, pour en fait qui a envie de jouer. Pardon ?
Il a allumé tout le coup ?
Oui. De venir participer à une journée de théâtre forum. Donc le théâtre forum, c'est un outil qu'on utilise pour à travers le jeu, vivre et s'approprier des situations. Donc là, en l'occurrence, ça se passe sur une journée entière. Le matin, ce sont des petits jeux de théâtre, de mise en corps, comme ils appellent les théâtreux. Donc c'est travailler un petit peu sur comment on est capable d'exprimer des émotions par le corps. Et on fait aussi des jeux de travail de vocaux, de comment on exprime avec des mots ce qu'on ressent à l'intérieur de notre corps. Donc c'est vraiment un lien entre les deux. Entre midi et deux, on mange tous ensemble. Et l'après-midi, on joue. On joue vraiment au sens théâtre. C'est-à-dire que y a un petit groupe qui vit une scénette, qui spontanément en fait recrée une petite pièce de théâtre sur une scénette de harcèlement, puisqu'on est dans cette thématique-là. Et il y a un autre groupe qui regarde. Et dès que quelqu'un dans ce groupe a une idée de comment il pourrait améliorer la situation, il ne demande rien à personne, il se lève et il prend la place de quelqu'un d'autre. Et on fait évoluer comme ça la scène au fur et à mesure. Et en fait, en jouant, on s'approprie d'une part certaines émotions, mais d'autre part, on voit comment d'autres personnes réagissent. Et en fait, quand on sort de cette journée, on débriefe et on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une seule solution pour gérer le harcèlement, mais qu'il y en a plein et que ça dépend de chacun d'entre nous. Voilà. Donc, c'est gratuit, c'est sur inscription. Il y aura 30 personnes maximum parce que sinon, on ne peut pas explorer. Donc, vous avez, en sortant, le numéro de téléphone de la MJC. N'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. Voilà. Et ensuite, pour aller plus loin, eh ben, tout ce qu'on s'est dit au jour de là, depuis 18h, c'est enregistré et ce sera diffusé sur Radio Fil de l'Eau, donc à partir du, enfin, le samedi 6 à 15h. Donc ici, c'est 106.6 FM. À Cologne, c'est 100.9.
Cologne, on est encore sur le 106.6. On est encore sur le 106.6 à Cologne, oui.
Voilà. Et c'est aussi, donc ce sera aussi à cette heure-là en direct sur radiofildelot.fr et après en podcast, et vous pourrez l'écouter, le réécouter, etc. Donc comme on y a quand même passé 3h30, ce sera séquencé en épisodes. Donc voilà, n'hésitez pas à y retourner, à écouter, réécouter.
Merci, Mylène. Quelques outils justement pour terminer. Merci, vous, tu peux le mettre. Donc voilà, les numéros importants face au harcèlement, le 30-20, donc c'est un service et des appels gratuits bien sûr. Face au cyberharcèlement, le 30-18 également. Quelques petits tips, donc on peut retrouver le harcèlomètre... Ah, ça n'existe plus. Ah, d'accord. Bon, ben... Les promeneurs du net, déjà, on est sûr que ça existe encore et vous pourrez trouver pas mal d'informations. Le harcélomètre dont vous êtes servi tout à l'heure existe avec justement les tranches considérées comme du harcèlement ou pas. Parce que là, pour le caout de tout à l'heure, forcément, on a effacé, mais il existe pour de vrai. Et je protège mon enfant.gouv également, où vous pourrez retrouver pas mal d'informations. Juste avant de terminer, j'aimerais, s'ils le veulent bien, inviter sur scène, enfin déjà, j'aimerais inviter Audrey et Aurélien à me rejoindre, à venir près de moi. J'aimerais également inviter Rachel, Olivia, Enzo à venir sur scène également avec nous. J'aimerais également inviter Madame la directrice de l'MFR, Marie-Noëlle Lopez, et Priscilla Lesat également à nous rejoindre sur scène, bien sûr. Venez vers moi, approchez-vous, venez vers moi. On va faire un peu de place. Ah, Gadenzo, il le savait. T'as vu comment il est habillé, comme il est classe et tout. Il savait qu'on allait l'inviter. Il avait prévu le coup, Enzo. Donc je pense qu'on peut tous les applaudir vraiment bien fort encore une fois pour tout le travail réalisé. Parce que c'est un projet au long cours et qui existe depuis un moment maintenant. Donc on veut vraiment saluer, je vais me décaler, je vais vraiment leur laisser la place. Saluer le travail qui a été fait par la MFR de Cologne, donc la maison familiale et rurale. Toute l'équipe présente, les 4 étudiants infirmiers aussi qui nous viennent de Hoche. Nos intervenants, les 2 psychologues de la maison des ados, notre gendarme Elayla Bourrel. Merci beaucoup pour le travail effectué, vraiment un grand bravo à toutes et à tous. Merci pour votre sollicitation également d'avoir animé cette soirée. Un grand bravo à tous. Merci beaucoup. On termine cette super soirée, ça va, on n'a que 33 minutes de retard, on est plutôt pas trop mal. Dernière petite chose, il va y avoir un QR code qui va apparaître, si vous pouviez le prendre, c'est pour nos jeunes étudiants, voilà, pour l'enquête qu'ils réalisent dans le cadre de leur intervention. Ils ont prévu un petit questionnaire de satisfaction, si vous pouviez le flasher avant de partir et répondre et leur dire plein de bonnes choses, ce serait génial pour eux et pour leur service sanitaire. Une bonne soirée à toutes et à tous, merci beaucoup. C'est la fin de ce reportage aujourd'hui, c'est la fin de ce 3e et dernier épisode de cette conférence sur le harcèlement organisée le 13 mars dernier par la MFR, la maison familiale et rurale de Cologne, au sein de la grande salle de la MJC. Un grand merci déjà à la MFR pour m'avoir sollicité afin d'animer cette soirée. Un grand merci à tous les partenaires du projet, également la communauté de communes de la Gascogne toulousaine, l'association Happy en Gascogne, l'IFMS du Gers, la CAF du Gers et les transports Chabanon. Si vous voulez plus d'informations sur le projet, n'hésitez pas à vous rapprocher de la MFR de Cologne. Et surtout, un grand merci à Aurélien Miomandre qui a mené ça de fond en comble comme il a pu, avec les contraintes qu'il a pu avoir, mais également avec les avantages. C'était la fin de cet 3e et dernier épisode de cette conférence sur le harcèlement, retrouvable en podcast sur le site de Radio Fil de l'Eau. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous. Radio Fidelo, 106.6 à Lille-Jourdain, 100.9 à Florence et en direct sur les players du site internet www.radiofidelo.fr. Une très bonne journée à toutes et à tous.